Bonjour à tous, vous allez bien? Ça fait un peu bizarre hein, après dimanche dernier où il y avait peut-être 150 personnes de plus. On voit que beaucoup sont partis dans leur famille, fêter Noël. Et voilà, c'est toujours comme ça la période des fêtes, c'est d'autant plus quand c'est une église de centre-ville avec plein de gens d'autres pays, de nationalités différentes, ben, qui partent vers les leurs, et ce qui est bien normal. Par contre, il y a quelque chose qui ne change absolument pas, c'est que le Dieu qu'on a prêché dimanche dernier, c'est absolument le même aujourd'hui avec le tiers de gens. C'est exactement le même. Et on va directement lire un passage dans Luc 2. 1 à 20. Alors, je ne sais pas si vous avez des Bibles. Si vous n'avez pas des Bibles, il y a des Bibles à l'entrée. Tu peux te servir, tu peux la garder. Il y en a suffisamment. Et il ne faut pas que tu partes à la maison sans la parole de Dieu. J'aurais juste besoin du PowerPoint. S'il marche. Il va peut-être marcher. Mais je vais déjà commencer à lire ce texte. C'est la naissance de Jésus à Bethléem. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y a là pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il y avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je ne me rappelais plus du titre de la prédication. C'est que ce matin, je ne savais pas ce que je devais mettre comme titre à cette prédication. Et c'est Noël, Dieu s'abaisse pour nous élever. Quand on m'a demandé de prêcher, je me suis dit, purée, j'ai déjà prêché deux fois sur Noël, je ne sais plus ce que j'aurais à dire. Et j'avais fait deux fois sur les prophéties et toutes ces preuves historiques, parce que c'est des textes qui ont été écrits avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus, et qui annonçaient Jésus. Mais il y a plein d'autres choses encore à creuser que simplement les prophéties. Donc on termine, comme nous l'a rappelé Tom, une série de prédications sur l'Avent, et là c'est la quatrième, et on peut dire que c'est l'épilogue de cela, mais en fait c'est plutôt un commencement, avec la naissance d'un bébé. Et on a vécu toute cette période de l'Avent. Alors je ne vais pas vous expliquer toute la tradition qu'il y a derrière cette période de l'Avent. L'Avent a été suivi pendant des centaines d'années par des chrétiens. Au 5e siècle, en fait, il avait été décidé par un évêque qu'à partir de la fête de Saint-Martin, c'est-à-dire le 11 novembre, on jeûnerait 3 fois par semaine, on prierait, jusqu'aux fêtes de Noël. Et c'est de là que vient le carême de Saint-Martin. Il y a plusieurs variantes de ceci, donc on ne va pas trop s'allonger. Par contre, à la différence des gens aujourd'hui, et dont je fais partie, certains chrétiens prenaient le temps de se préparer à la célébration de Noël. Ce n'était pas juste arriver à Noël, lire l'histoire. Non, ils prenaient le temps de se préparer personnellement à cette fête, en jeûnant et en priant. Pour ma part, je ne connais personne qui se prépare comme ça. Et je devrais déjà le commencer moi-même. Prendre le temps de s'arrêter. Mais en fait, vu que s'arrêter dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait possible, ou on pense que ce n'est pas possible, juste prendre le temps de ralentir et de ne pas tout accepter. Et c'est quoi Noël aujourd'hui, en fait? Vous avez vu dans le flyer de la fête de Noël, on avait mis « C'est quoi Noël en 2017 ?» Ben Noël, c'est devenu un peu comme dans le journalisme. Vous savez, c'est devenu un marronnier. Vous savez ce que c'est un marronnier? C'est ces sujets ou ces thèmes qui reviennent chaque année. C'est toujours les mêmes. On connaît le contenu à l'avance. On s'y attend. Et on n'y prête pas forcément attention. Ils évoquent des sentiments qui sont partagés par beaucoup, des choses qui concernent tout le monde. En journalisme, justement, en marronnier, c'est un article du style « Le départ de vacances d'été », comme si on ne savait pas qu'elle allait avoir les vacances en été, et tout ce qui va là autour. Ça pourrait être la naissance, et on aura bientôt la naissance du premier bébé en Suisse romande. Hein, on a toujours la petite photo dans un journal orange. Le carnaval, les fêtes de fin d'année. Et Noël. C'est devenu un marronnier. On pense que ce n'est pas important, toutes ces choses-là, mais quand on y réfléchit un peu, en fait, ça nous manque si ce n'est pas là. Il y a quelque chose qui nous manque, on s'attend à voir ces choses-là. Et ce que j'ai pensé, c'est qu'on traverse plein de périodes de nos vies sans les vivre, réellement, sans y prêter attention. Plein de saisons qui filent les unes après les autres. Et je connais beaucoup de gens pour qui cette période de Noël est synonyme de nostalgie, de souffrance et de difficulté. Et en fait, il y a plein de raisons pour ne pas aimer Noël. Plein. Le stress au travail. On s'approche de la fin de l'année, puis on a l'impression qu'à partir du 1er janvier, le monde s'arrête, en fait. Ça ne continue plus. Donc il faut tout terminer avant la fin de l'année, avant le 31-12. Et ça tombe pendant cette période de Noël. Donc on déteste cette période. La cohue dans les magasins, je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors vendredi dernier, j'ai eu la bonne idée d'aller en ville, centre-ville de Genève, pour acheter quelque chose en vieille ville. J'ai voulu garer ma voiture. Vous savez ce qui s'est passé? Je voulais aller faire vite fait. Je suis rentré, les mains vides. Parce que je ne voulais pas me garer, je suis parti, j'en avais marre. Et du coup, dans ces moments-là, Noël devient super chouette. On est super contents de cette période-là. T'as aussi les cadeaux que tu te sens parfois obligé d'acheter dans certaines familles. Alors aujourd'hui, tu n'as plus besoin de penser à ça. C'est le 24. Il faudrait que tu ailles à l'aéroport pour voir l'un ou l'autre magasin ouvert, mais laisse tomber, ça ne sert à plus rien. Oui, Sarah, mon épouse, les cartes de vœux qui restent encore à écrire que j'ai promis. Je suis super content de les avoir écrites. Donc ceux qui auraient reçu une carte de notre part, je suis très content de les écrire, mais il faut les écrire. La pression des menus, qu'est-ce qu'on va faire à manger? On n'est pas d'accord. Qui en invite, on fait chez qui? Purée, il n'y a que des problèmes, quoi. Et pour d'autres, les raisons de ne pas aimer Noël sont plus profondes. Ça nous rappelle qu'on est loin de notre pays, loin de sa famille. Et la solitude s'installe. On a tous cette image de Noël au coin d'un feu, avec un beau sapin, le chien, le chat, etc. Vous voyez l'image, une table qui est blinde, enfin bref. C'est une image rassurante, réconfortante. Mais un décès de quelqu'un fait que cette image se casse. Quelqu'un manque. Ou sinon, ça peut être un divorce. Dans d'autres cas, ça peut être tout simplement « mes enfants ne me parlent plus » ou vice-versa. Et ils veulent plus me voir. Pour d'autres, la période de Noël te rappelle que tu es trop âgé ou trop malade et que c'est probablement tes derniers Noëls.
Du coup, tu n'as pas la tête à te réjouir, tu n'as pas envie. Pour d'autres aussi, c'est des soucis de logement ou financiers qui prennent une ampleur toute particulière. Parce qu'on arrive vers la fin de l'année, on arrive vers Noël, on pensait qu'on allait pouvoir tout résoudre. 2017 allait être l'année des grands changements. Et puis rien n'a changé. C'est toujours la Moïse complète. On n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts. Toujours les mêmes soucis. Par contre, vu que c'est Noël, on commence à s'arrêter un peu. On y réfléchit à ça. Beaucoup ont toutes les raisons du monde de détester cette période. Car elle nous confronte à ce qu'est notre existence. Pardon. Pour certains, ça nous remue les tripes. Alors, tu fais partie de quelle catégorie ? De ceux qui sont plutôt tristes ou nostalgiques ? Ou de ceux qui sont à fond dans tout et puis qui ne voient absolument rien passer ? Je ne sais pas si tu as remarqué, alors je ne sais pas combien de minutes ça fait que je parle, mais ça fait 5 minutes que je parle pour dire plein de choses. Et tu sais quel est le lien de tout ça avec Noël ? C'est quoi le lien ? Tu as une idée ? Réfléchis pas trop, il n'y en a aucun. Il n'y en a absolument aucun. La société d'aujourd'hui a perdu complètement le sens de ce qu'est Noël. Complètement. À l'école de Lara et Lucas, mes deux derniers, dans le canton de Vaud, on fait une chantée de Noël. Et les gamins ont préparé une soupe qui est moyennement bonne. Enfin, ils sont pas là, hein. Ben, ça va. Les enfants ont chanté 3 chansons pour le Père Noël, qui va apporter des cadeaux par milliers, vous connaissez celle-là. Hein. 3 chansons et aucune mention de ce qu'on va parler ce matin, aucune. Marrant, le lendemain matin, je prends la voiture pour aller au boulot sur l'autoroute Radio 6 Romande. La première nous parlait de nos traditions autour du sapin de Noël, du Père Noël, décidément celui-là il est partout. Surtout depuis que la boisson rouge a fait beaucoup parler de lui, Coca-Cola. Il parlait de nos traditions autour du sapin de Noël, de l'échange des cadeaux, et il était également mention de la connotation religieuse de Noël. C'était une grosse surprise. Mais du coup, qu'il fallait la supprimer pour des questions de laïcité. Puis du coup, de se dire, est-ce que c'est des fêtes qu'on peut toujours fêter ? Ça, c'était le débat d'ailleurs avec un prof de théologie d'une fac, je ne sais plus où, qui disait qu'on pouvait éventuellement remettre ça en question. Je trouvais ça assez excellent. Mais on fait partie de cette société, mes amis. Et nous, de notre côté, on peut critiquer la société, mais nous, de notre côté, quand j'ai écrit ça, je me revois dans plein de ces choses-là. Je fais penser qu'à moi-même, qu'à mes états d'âme, qu'à mes vies, qu'à ma vie, parce que j'en ai qu'une. Sans y intégrer la réalité de l'événement extraordinaire qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Dieu s'est abaissé jusqu'à nous afin de donner une solution à nos vies, afin de nous donner une espérance et un futur éternel. Ben voilà, mes amis, encore une année qui a filé à toute vitesse. Et heureusement qu'il y a ce message de Noël. Et moi qui me rassure, parce que je sais qu'avec une bonne partie d'entre vous, je suis sûr, les autres j'espère aussi. Je sais que ça ne s'arrêterait pas à Noël prochain, au Noël d'après, au Noël dans 10 ans. Mais je sais qu'on se verra plus tard, parce qu'il y a ce message de Noël. Ça me rassure. Est-ce que c'est une espérance pour tous ? Oui et non. Vous connaissez Paul Naref, l'homme aux lunettes blanches, là ? On ira tous au paradis, cette chanson qui est sortie droit de son imagination. Ce matin, on parle de choses réelles, on ne parle pas d'imagination. Oui, cette bonne nouvelle est disponible pour tous, mais elle est réelle uniquement pour ceux qui auront compris pourquoi ce bébé-là est venu. Pourquoi il est venu naître à Bethléem. Et ce texte, ce n'est pas une biographie à l'eau de rose. Ce n'est pas non plus une histoire du style, il était une fois. Tom nous l'a rappelé, non, c'est un texte hyper précis, écrit par un toubib à l'époque, qui a envoyé cette lettre à un de ses amis, et il s'est basé sur des choses factuelles. Et nous avons pris les textes de Luc parce que c'est lui qui fournit le plus de détails. Peut-être c'était sa formation de médecin qui faisait ça. Et d'ailleurs, son objectif en écrivant ces textes, nous le retrouvons directement au verset 1 du chapitre 1er de Luc, et on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, mais je vais le relire. C'est ce que Luc écrit. « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus les serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes les choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Voilà pourquoi Luc écrit ça. Ce n'est pas juste un gars qui a eu une idée comme ça, il a voulu transmettre exactement ce qui s'est passé pour que ce message-là ne soit pas altéré, qu'il soit écrit noir sur blanc et qu'on puisse aussi, le Seigneur a permis qu'on puisse l'avoir encore aujourd'hui. Voyons le contexte et là on arrive justement à Luc 2, versets 1 à 3. « À cette époque parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. » Voilà la carte de l'Empire romain sous Auguste. Et puis ici, on voit la petite Judée, c'est où se trouve Israël. Qui était une conquête d'Auguste et qui était administrée par Quirinus. Donc c'est quoi? C'est une naissance sous occupation. Une naissance sous occupation romaine. Dieu, dans sa toute-puissance, il aurait pu résoudre les problèmes d'Israël avant de venir. Il aurait pu faire chasser les Romains, établir un roi qui aurait été d'accord de céder la place au roi des rois, où il aurait été obligé, ça aurait été beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, tout le peuple attendait ce Messie qui venait pour libérer le peuple de l'esclavage, de l'occupation, des différentes choses dans lesquelles ils étaient passés. Mais Jésus, il a voulu naître comme nous, avec tout ce que cela représente dès sa naissance. Il est devenu humain dans l'occupation avec les contraintes. Et d'ailleurs, ses parents n'ont pas eu le choix quand il y a eu ce recensement. Ils ont dû aller se faire inscrire dans leur ville d'origine. Ce n'était pas un choix. Et le recensement était super utile pour les Romains, parce que comme ça, ils pouvaient savoir exactement qui devait payer les impôts et puis augmenter en fait les revenus. Dans les autres régions du monde, ça servait aussi à enrôler des hommes dans les armées. Par contre, les Juifs, ils avaient bien négocié ça. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ne pouvaient pas échapper au recensement et ils ne pouvaient pas échapper aux taxes. Donc Jésus naît ou arrive dans cette époque, occupation, contrainte, recensement. Et si on continue le texte, Marie et Joseph, ils sont obligés d'aller à leur ville d'origine, donc ils font un voyage. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David, et il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Marie-Joseph, ils n'ont pas le choix, ben ils y vont. Et donc voilà un zoom un petit peu de cette Judée. Et puis donc là, on voit Nazareth ici en haut, Jérusalem ici en bas, et puis Bethléem qui est juste en dessous. Et on peut se dire que Marie et Joseph, ils n'ont pas eu de bol, parce qu'ils n'habitaient pas au bon endroit pour ce recensement-là. Donc ils ont dû faire tout ce trajet-là. Et ce trajet-là représente 112 kilomètres. Si on fait une ligne plus ou moins droite. Les textes ne nous disent pas combien de temps a duré ce voyage. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas été fait ni en voiture, ni en bus, ni en moto. Au mieux, peut-être avec un âne, peut-être à pied, peut-être avec des chevaux, on n'en sait rien. Et j'imagine aussi que Marie devait être à un stade relativement avancé de sa grossesse, on ne sait pas exactement à quel moment elle est partie. mais certainement parce qu'elle n'allait pas vivre sa grossesse dans un endroit qui n'était pas chez elle, loin de sa maison. Donc elle devait être peut-être au 7e, 8e mois de grossesse, presque à terme, je ne sais pas. Mais imaginez cette femme et son homme qui font une marche de plus de 100 km, plusieurs jours ou plusieurs semaines hors de leur domicile. Ma femme était assez mobile et courageuse pendant toutes les grossesses, ça se passait bien, mais je connais certaines femmes qu'à partir du 7e, 8e mois, ont de la peine à s'asseoir dans une voiture. Tu vois, quand je te disais que ce n'était pas une histoire à l'eau de rose, ce n'est pas drôle. Tout ça à cause de l'occupant. Marie a eu le privilège de porter Jésus dans son ventre, mais ce n'est pas pour autant que les choses ont été simples pour elle. Et on continue le texte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né et l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle des hôtes. Il est né hors de sa maison, pas uniquement pour des questions politiques, à cause de ce recensement, mais aussi pour autre chose, pour accomplir une prophétie. Donc j'ai quand même mis une ou deux prophéties. Et une des raisons pour laquelle je crois que la Bible est la parole de Dieu, c'est à cause de l'accomplissement des prophéties. Il y a plus de 600 prophéties sur Jésus, sur sa première venue, sur la suite aussi dans le Nouveau Testament. Et les 300 prophéties sur sa première venue, elles ont strictement toutes été accomplies. Et ce sont des textes écrits avant la naissance de Jésus. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il est né à Bethléem et cela avait été annoncé environ 700 ans avant Jésus-Christ. Dans Michée 5:2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Situé au sud, on a vu, au sud de Jérusalem, c'était une petite bourgade de 1000 habitants, tout petit. Il fallait déjà faire bien exprès pour être né à Bethléem, pour pouvoir se faire passer pour le Messie. Ça limitait déjà pas mal le choix. Le nom de Bethléem signifie « la maison du pain ». Et en fait, on se rappelait quand on parlait de Bethléem, on appelait Bethléem Ephrata, pour ne pas confondre avec une homonyme qui était en Galilée. Et Ephrata, c'était, on l'appelait la fructueuse, la maison du vin. Le pain et le vin. Un petit clin d'œil. Et on arrive à la naissance. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et je me suis trompé, je reviens en arrière. Il faut que je prenne la suite, excusez-moi. C'est la naissance. Je vais revenir au texte pour que vous l'ayez sous les yeux. Je reviens à Marie. Marie, comme n'importe quelle future maman, avait dû se faire plein d'idées sur la venue de ce bébé. Elle n'avait certainement pas imaginé qu'avec Joseph, il devait parcourir ses plus de 100 kilomètres, qu'elle devrait se retrouver loin de sa maison pour accoucher, ou loin d'un hôpital aujourd'hui pour accoucher, ou dans un pays étranger, ou dans un endroit où elle n'est pas à l'aise. Et il y a tellement de situations dans nos vies qui ne se passent pas comme on prévoit. Mais dans ce cas-là précis, Dieu avait un plan et il maîtrisait tout. Un plan qui avait été décidé des centaines d'années auparavant. Puis il fallait que ça s'accomplisse. Pour un premier accouchement, ce n'était pas vraiment top non plus. Pas de place pour une femme enceinte et son mari dans la salle des hôtes. Donc ils sont rejetés, ils sont repoussés. Une femme enceinte. À terme. Entrée refusée.
En principe, ça nous arrive pas toujours quand on a de l'argent. On arrive toujours à négocier, à s'arranger. Mais visiblement, c'est pas le cas de ce couple. Pas d'infirmière, ni de médecin, pas de sage-femme, pas de péridurale. Jésus est né dans ce qu'on pense être une étable, vu qu'il a été couché dans une mangeoire, qui sert à alimenter des animaux. Et souvent, les étables dans cette région-là, à cette époque-là, étaient des grottes. Étaient des grottes, et la mangeoire était taillée dans la roche, à même la roche. Donc, pas l'image de la carte postale. C'est plutôt sombre, c'est plutôt sale. Ça ne doit pas sentir très bon non plus. Ce n'est pas un cadre royal pour Jésus. Et de nouveau, s'il avait eu des parents aisés, et s'il avait voulu, il aurait pu avoir un berceau digne de son rang. Il était pourtant le Messie, il était de la lignée du grand roi David, quelqu'un qui aurait dû être tout puissant dès le départ. Et pourquoi il a fait ça? Pour que chacun d'entre nous puisse s'identifier à lui. Le roi des rois s'abaisse jusqu'à naître dans une étable. Et la salle des hôtes dans laquelle il n'y avait pas de place, on peut la comparer à nos cœurs en fait. Parce qu'il ne faut pas que tu te dises ce matin, oui, non, mais moi je l'aurais fait rentrer chez moi. Je les aurais accueillis. Il faut plutôt que tu réfléchisses à la salle des autres qui est ton cœur. On est trop plein de toutes choses que nous avons vues au tout début. On remplit nos cœurs avec tout, sauf ce que Dieu nous a transmis et le message qu'il voulait véhiculer. Quelle est la place pour Jésus dans ton cœur et dans ta vie? Est-ce que tu l'as rejeté au point de le laisser dehors? Même pas un petit coin dans ta vie, même pas un petit coin. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend que de toi. Ce n'est pas une question d'âge. Certains le rejettent jusqu'au crépuscule de leur vie, en se trouvant toutes sortes d'excuses. Mais avec ce que tu entends ce matin, tu n'as plus tellement le choix, tu n'auras plus tellement d'excuses. J'aime beaucoup citer Blaise Pascal, et puis ma citation favorite de Blaise Pascal est celle-ci. Il faut connaître les choses terrestres pour les aimer, mais il faut aimer les choses célestes pour les connaître. C'est facile d'aimer les choses terrestres. On les connaît, on les touche, on les voit, elles sont palpables. Mais si tu veux connaître les choses célestes, il faut que tu commences par les aimer. On a tous tendance à croire ce que l'on voit, à aimer ce que l'on goûte. Et avec Jésus, c'est à l'envers. Plus on va aimer, plus on va l'aimer, plus on va goûter aux choses célestes, plus on va le rechercher, plus il va se révéler à nous. Plus on va découvrir des choses sur lui. Et je te propose ce matin de ne pas avoir un cœur comme cette salle des fêtes, pleine à craquer, où on consomme, on jette, on passe d'une chose à l'autre. On se dira de nouveau ce Noël, tu vois les enfants, ce cadeau-là, ben ils ont joué deux minutes avec, ils ont pris l'autre, puis ils ont pris l'autre, et puis ils ont fait ci, puis ils ont fait ça. Ben nous, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est plein d'autres choses. On se distrait avec plein de choses alors que le plus important est là, juste devant nous, mais on ne le saisit pas. Dieu, c'est un Dieu qui veut faire partie de nos vies. Et on voit dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce que tu veux le laisser dehors ? De ta vie, même en tant que chrétien, des fois, on le laisse un peu dehors. Dans l'écurie à côté, où il ne me dérangera pas, où il est assez loin, il ne fera pas trop de bruit ce bébé. Où mon Seigneur sera suffisamment loin pour que je ne pense pas trop à lui. Philippiens 2, 6 à 7 dit ceci. Lui qui était
Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. C'est pas un Dieu lointain quand on lit ça. Il est là, il est juste à côté, il frappe. Il s'est dépouillé de tout pour être comme nous, voire plus bas que nous. Il est là ce matin et il frappe à la porte de nos cœurs, de ton cœur. Et voilà, maintenant le Messie, il est couché dans une mangeoire. Et cette nouvelle doit être annoncée, donc il y a un faire-part qui doit partir. Il y a une carte de Noël qui doit partir. Et Dieu choisit à nouveau la simplicité. Une simplicité totale. Des bergers, des gens simples. Ce n'est pas des gens misérables, hein. Il ne faut pas aller voir des bergers misérables, etc. Parce qu'il y avait plein de bergers à cette époque-là. Mais c'était des gens simples, comme vous et moi. T'imagines l'honneur qui a été fait à cet homme. Et en plus, c'est un ange qui vient leur annoncer la naissance. 400 ans plus tard. Enfin, il y avait déjà eu avant, mais après. Il leur annonce cette nouvelle extraordinaire. On ne va pas lire tout le texte, je l'ai là, on va pas lire tout le texte, mais vous pourrez le lire dans vos Bibles, et on l'a lu au tout début. L'ange leur dit « N'ayez pas peur ». Pourquoi ? Ben parce que l'ange, ce n'est pas non plus cette carte postale, vous savez, de ce petit ange qui est sur un nuage et qui mange la crème, enfin je ne sais pas quoi. C'était plutôt hyper impressionnant comme histoire. Très très impressionnant quand un ange s'adressait. Il y avait de quoi avoir peur. Mais l'ange leur dit tout de suite, il ne faut pas que tu aies peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et nous avons parcouru les derniers dimanches le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Et au verset 52, Marie, inspirée par le Saint-Esprit, disait ceci sur son futur bébé. Quand on parle de gens simples, elle disait, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Comme des bergers, il les a élevés. Et voilà l'application de cette réalité dès sa naissance, immédiatement dès sa naissance. Il va tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et en plus d'être les premiers à être informés, ces bergers-là, c'était également les premiers à aller voir Jésus. Dominique Anger, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est docteur en théologie à l'Université Acadia à Montréal. Il a travaillé à l'IBG, il était aussi anciennement à l'Action publique Ville-Lagrand. Il a écrit un papier sur Noël. Il a un point commun avec moi, on a la même année de naissance. Mais ce n'est pas pour ça que je le cite. Et puis, cela dit, c'est une source d'inspiration pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui sait vulgariser la parole. Elle lui parle de ceci. Noël, c'est l'histoire de deux grands renversements. Le premier, c'est l'héritier du trône de David est couché dans une mangeoire. Imagine, le grand roi David, son héritier, Jésus est de la lignée de David, il est couché dans une mangeoire où il y a des animaux qui vont, excusez-moi du terme, bouffer. C'est comme ça qu'on dit ce qu'un animal fait. Jésus, il est là-dedans. Lors de l'annonce de la naissance de Jésus, l'ange Gabriel avait dit à Marie à propos de son fils, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Et ça, c'était ni plus ni moins que la promesse de Dieu au roi David en 2 Samuel 7,16 qui s'accomplira bientôt. Malgré cela, Marie le couche dans une mangeoire. Donc le premier grand renversement, l'héritier du trône de David est couché dans une mangeoire. Deuxième, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, et on en a parlé, est annoncée à des simples bergers. Les bergers représentent un exemple pour nous, dit notre frère. lecteur de l'Évangile, il nous montre la voie de l'humilité. Et Dominique conclut, Noël c'est renversant, pourquoi ? Parce qu'il se produit à Noël deux grands renversements de statut, un premier vers le bas et un deuxième vers le haut. Jésus vient et Dieu vient sur cette terre, s'abaisse jusqu'à nous sur cette terre pour nous élever nous. Le roi s'est abaissé pour que les bergers soient élevés. Autrement dit, l'abaissement du roi indique déjà qui sera au bénéfice de son règne. Et qui sera au bénéfice de son règne ? Les gens humbles, ceux qui se savent pécheurs, ceux qui veulent un sauveur. Dans la ville de David, Dieu a abaissé le roi, venu sauver celles et ceux qui acceptent de s'abaisser. Et la question que je veux te poser ce matin, est-ce que tu acceptes de t'abaisser ? Pour accepter le roi qui s'est abaissé jusqu'à toi. C'est pas la même distance hein, pour se baisser si on mesurait ça en mètres ou en kilomètres. Lui s'est abaissé d'une manière juste folle, complètement folle. Nous c'est pas grand chose. Hein. C'est juste pas grand chose. Nous c'est juste notre amour propre. On a chanté au départ quand on vient vers lui tel qu'on est. On n'a rien. On n'a rien, on a juste notre cœur à lui apporter. Jésus s'est incarné, il a quitté un endroit parfait pour venir dans un monde où il nous a laissé le choix. C'est lui qui a créé ce monde, mais il nous a laissé le choix de le gérer, de l'administrer, et on s'est planté, et le péché est venu. Et malgré ça, il vient vers nous. Et il vient dans un monde où règne la souffrance, les larmes, la peur, la haine. Et lui, il vient en plus dans une période sous occupation. Il vient dans un monde dans lequel certaines personnes n'ont pas uniquement des enfants parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'ont aussi parfois pas d'enfants parce qu'ils ont peur pour l'avenir. Ils renoncent à en avoir. Peut-être dans ta vie, tu as été trahi par des amis, par ton conjoint. Jésus aussi a été trahi par ses amis. Tu as peut-être connu la misère jusqu'à avoir faim. Jésus aussi a eu faim. Peut-être on s'est aussi moqué de toi. Jésus aussi a subi les moqueries. Il a été humilié et méprisé. Peu d'entre nous ont été frappés, enfin j'espère, mais si tu as été frappé, lui aussi a été frappé. Tu as peut-être souffert avec, ou tu souffres encore avec la perte d'un être cher, Jésus aussi a connu le deuil. On traverse parfois des moments de tristesse, Jésus aussi elle a pleuré. Tu trouves que tu te sens seul ? Jésus aussi s'est senti seul, et pas uniquement sur la croix. Plusieurs passages, on retrouve ça. Peut-être tu ne trouves pas ta place dans la société ? Ben, s'il y en a un qui a bien été rejeté, c'est bien lui. Hein. Aucune des situations de ta vie n'échappe au Seigneur Jésus. Et il sait exactement ce qu'on ressent. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà passé par là. Je t'invente rien, tout ce que je te dis là, tu peux le retrouver dans ce livre-là qui est la Bible. Tu es peut-être dans une situation où tu es brisé par ta vie, brisé par ton vécu. Et je vais te dire un truc, même si tu crois que tu n'es pas brisé, tu l'es brisé. Tu es brisé. Tu es brisé par ton péché. Tu es brisé par tes fautes. Et si tu as assez d'humilité
pour t'examiner toi-même.
Tu constateras que tu es brisé. On est tous corrompus par notre ego, par notre amour-propre, par notre suffisance, par notre égoïsme, et j'en passe. Et le roi de rois s'est abaissé jusqu'à nous. Elle s'est fait briser sur une croix pour nous élever, pour nous rendre irréprochables, en payant le prix qui était réservé pour nos péchés. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais parlé du cadeau de Noël. Et le fait que Jésus s'abaisse vers nous, c'est un cadeau de Noël. Et on s'échange des cadeaux à Noël. En tout cas en Suisse, dans certaines cultures, dans d'autres pas. Et Jésus, il est là, il a plein de choses à t'offrir. Mais il veut aussi que tu lui donnes quelque chose en retour. Il ne veut pas juste offrir un cadeau comme ça. Il veut que tu lui donnes quelque chose en retour. Et ce matin, il est là, Jésus, il te dit, « Donne-moi tes peurs. Je te donnerai la paix. Donne-moi tes doutes. Je te donnerai de l'assurance. Donne-moi tes peines. Je t'apporterai de la joie. » Et avant de poursuivre, dans chacune de ces choses-là, c'est, tu me donnes, mais tu me le donnes vraiment. Tes peurs, tu me les donnes vraiment. Tes doutes, tu me les donnes vraiment. Tu ne me les donnes pas à moitié. Tes peines, tu me les donnes vraiment. C'est pas, oui Seigneur, donne-moi ta joie, mais 5 minutes après. Parce que là, tu te fiches de Jésus, si tu fais ça comme ça. Donne-moi tes peines, je t'apporterai de la joie. Donne-moi ta fatigue. Fatigue peut avoir plein de choses là derrière, pas uniquement fatigue physique, fatigue psychologique. Tu auras mon repos. Donne-moi tes tristesses, je te consolerai. Donne-moi tes faiblesses, je te donnerai ma force. Donne-moi tes doutes, je te donnerai la foi. Et peut-être qu'on aurait dû commencer par ceci. Donne-moi tes péchés. J'ai déjà payé ta dette. Ce cadeau-là, il est acheté depuis longtemps, il est payé depuis longtemps. Donne-moi ta vie. Tu passeras l'éternité avec moi. Jésus s'est chargé de tout à notre place. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe annonçait ceci sur Jésus, et on arrive à la fin. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, et nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est une histoire réelle, une histoire renversante. Un roi serviteur qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous sauver. Jonathan, dimanche dernier, nous a donné cet exemple de cette porte entrouverte dans laquelle il y avait un trésor. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, vous pouvez la réécouter sur le net. Le trésor est juste là derrière la porte. T'as qu'à l'ouvrir, t'as qu'à aller t'approprier de cela. Il y a l'autre image où Jésus nous dit, dans l'Apocalypse, hein, il frappe à la porte. Je me tiens là et je frappe à la porte. Tu n'as qu'à ouvrir et le laisser transformer ta vie. Je vais prier. Ouais, Seigneur Jésus, merci parce que tu as accepté de venir nous visiter. Tu as accepté de venir dans ce monde, de t'humilier, de t'humilier à tel point qu'on puisse tous s'identifier à toi. Merci parce que tu as renoncé à toute la gloire céleste, Seigneur, pour t'approcher de nous. Avec ce seul but et ce seul objectif de mourir cloué sur une croix pour nos péchés. Merci parce que c'est ça Noël, Seigneur. C'est une nouvelle extraordinaire pour toute l'humanité. Le roi, le Dieu éternel, est venu sur cette terre. Tu as foulé la même terre que nous. Tu es passé par les mêmes souffrances que nous, par les mêmes luttes que nous. Mais toi, tu étais Dieu. Et tu l'as fait uniquement pour nous sauver. Je veux te prier pour chacun de nous qui sommes ici ce matin. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Brise les chaînes des cœurs. Et nous qui te connaissons, Seigneur, aide-nous à avoir toujours cette salle de notre cœur complètement ouverte pour toi, complètement ouverte pour ton service, complètement ouverte pour ta parole. Aide-moi et nous aussi à être humbles, comme tu l'as été. Merci pour cet exemple extraordinaire que tu nous as donné. Je te prie également pour tous les frères et sœurs, tous nos amis qui ne sont pas là ce matin, qui ont rejoint leur famille pour fêter cette bonne nouvelle, Seigneur, que vraiment tu puisses être là où ils sont, qu'ils puissent être des témoins puissants de ta parole, Seigneur. En ton nom, Amen. Jésus est né pour toi. Je vous souhaite un joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse.